13h, 14h, vous êtes où cet été ? Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Vous êtes où cet été ? C'est le meilleur de la semaine passée avec nos baroudeurs d'Europe 1, des expériences, des rencontres, des paysages et beaucoup, beaucoup d'humains dans tout ça. Les vacances, vues par le prisme de l'artisanat, de l'innovation, des petites histoires qui, elles, dessinent la grande histoire. C'est pendant une heure, de 13h à 14h, tous les samedis. Bonjour à tous, aujourd'hui cap sur la Côte d'Azur, ses plages, ses lieux insolites, la fameuse tarte tropézienne. On en salive déjà, sans oublier bien sûr la route, l'autoroute sur laquelle peut-être vous vous trouvez en ce moment pour accéder à tous ces trésors. Vous êtes tous cet été avec Jean-Gabriel Bourgeois, c'est parti.
13h, 14h, vous êtes tous cet été. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Première étape aujourd'hui, direction la Côte d'Azur avec une famille nombreuse qui posait ses bagages dans une résidence de vacances. Bonjour Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Vous avez, c'était au début de la semaine, lundi, rencontré cette famille, c'était à Fréjus dans le Var.
Oui c'est ça, en fait j'ai rencontré Caroline, une maman à la gare de Fréjus et en fait c'est elle qui m'a amené dans cette résidence de vacances où tout le monde se retrouve. Imaginez un peu, ils sont 18 personnes, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines.
Ouais, c'est le jeu de cette
tout le monde
quoi.
Se retrouve, ouais. C'est ça, voilà. Depuis 22 ans, ils viennent tous d'un peu partout, Paris, Annecy, Boston, il y en a même la grande sœur qui habite à Berlin, et donc ils se retrouvent à 18 dans cette résidence de vacances, la résidence du Colombier. Donc en fait tout le monde pose les valises dans la chambre et puis après direction la piscine, donc les retrouvailles, tout le monde se retrouve à ce moment-là et il y a surtout l'arrière-grand-mère.
Ah, la matriarche.
Exactement, Marie-Claire alias Mouti.
Mouti en allemand ça veut dire
ans.
Maman hein.
Exactement. Elle a 86 ans et c'est elle qui organise ce fameux séjour d'une semaine. D'ailleurs, ça s'appelle la semaine de Mouti. Et en fait, c'est même elle qui invite tout le monde.
Comme ça, au moins, je suis sûre qu'ils viennent. On se retrouve tous ensemble, c'est super. Alors au début, on était 4-5, ça ne coûtait pas trop cher. Mais là, maintenant, on est 20. Moi, je suis ravie. Et j'en ai deux qui, en principe, ne venaient pas et qui sont là. Et ils ont débarqué avec le bébé. Mon arrière-petite-fille, attention. Chaque année, je cherche, au mois de janvier, un point de chute où on puisse loger tant de personnes à la fois. Il y a des contraintes, alors il faut que ce soit avec des repas en buffet, il faut qu'il y ait une piscine, il faut qu'il y ait du soleil, forcément.
Voilà, des repas en buffet, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple à gérer pour cette grande famille qui arrive un peu au compte-gouttes au fur et à mesure de la semaine. Par exemple, la famille attendait Charles, le petit cousin qui fêtait son diplôme d'architecte en Croatie.
Alors,
cette année, c'était donc sur la Côte d'Azur.
Vous nous disiez qu'ils se retrouvent depuis 22 ans. C'est colossal, 22 ans. On imagine que les enfants ont grandi.
Voilà, bah oui, forcément, venir pour cette semaine de vacances en famille, cette fameuse semaine de Mouti, c'est un peu un rite de passage. C'est justement d'ailleurs ce que vit cette année Rémi. Ça fait 2 ans qu'il est en couple avec Sophie, une des petites filles de Mouti. Et évidemment, Rémi, bah, il s'attend à passer à la moulinette de toute la famille.
J'ai enfin été invité, après 2 ans de dur labeur avec Sophie, donc la petite fille. Là, ça fait quoi, 1 heure, 2 heures qu'on est ensemble, donc ça commence plutôt bien. J'ai déjà fait mes armes un peu dans la famille, donc je pense que ça va bien se passer, ouais. Peut-être pendant les repas, ouais, ça va être compliqué, parce que je pense que je vais être un peu au milieu de toutes les moqueries, mais je sais qu'il y aura sûrement quelques pics, mais ce sera pas méchant, donc ça va bien se passer, ça va être cool.
Voilà, alors les repas, évidemment, je suis resté quand même pour voir un peu à quoi ça ressemblait, parce que un repas...
Il s'est fait chambrer ou pas,
alors ? Honnêtement, pas tellement, pas vraiment tant que ça, ouais, justement.
Alors, un dîner à 18, donc vous étiez 19, puisque vous étiez là, mon cher Jean-Gabriel, comment ça s'est passé ?
Eh bien, toute la famille est en résidence de vacances, donc voilà, il n'y a pas les courses à faire, il y a juste en fait à se poser les pieds sous la table, on prend un verre de rosé, donc c'est quand même plus tranquille, après surtout la route ou le train, et puis tout le monde un peu se raconte son année, surtout on commence à parler des projets de la semaine qui vient. Il y aura évidemment de la piscine, donc il y aura aussi de la Méditerranée, parce qu'on est quand même juste à côté, ça c'est bien dans le programme de la semaine, mais il y a aussi un incontournable, une activité culturelle qui doit plaire à tout le monde, et surtout à l'arrière-grand-mère Mouti, c'est quand même elle qui paye les vacances, faut pas l'oublier. Écoutez par exemple ce qu'en dit la tante Anne.
Pour faire plaisir à la patriarche, on fait une visite culturelle normalement par séjour où tout le monde participe. Voilà, ça peut être visite d'une abbaye, aller voir Bonifacio, les caves de Roquefort. Tous les ans, c'est un endroit différent, donc on n'est jamais allé 2 fois au même endroit.
Et là, vous savez où ça va être, cette fameuse visite culturelle pour faire plaisir à Mouti ?
Non, on n'a pas encore regardé, parce qu'on arrive juste. L'année dernière, on a un peu loupé, je crois. C'était Coupe du Monde, alors les enfants, tout le monde était plus intéressé par aller à Bordeaux regarder le match de foot que la visite culturelle.
Voilà, gare à ceux qui sont pas là, hein. J'ai l'impression qu'il y a une opération de pointage. L'activité culturelle, ça dépend des années, ils se voient quasiment pas de l'année, et là, ils se retrouvent tous ensemble. Ça peut être difficile parfois quand même.
Bah, tout le monde y met quand même un peu du sien pour que ça se passe bien, évidemment. D'ailleurs, c'est l'une des quatre filles de Mouti qui me le dit. Odile m'a donné la recette pour que cette semaine se passe pour le mieux.
Du soleil, de l'eau, du rosé, une bonne ambiance. Après, on n'est pas toujours d'accord entre nous, mais pendant une semaine, on fait abstraction des tensions qui peuvent exister dans les familles. Donc chacun y met du sien et puis du coup, ça se passe très bien.
Et une semaine plus tard, les vacances se terminent, c'est ça ?
Alors en fait, ça dépend. Il y en a qui vont retourner au travail dès lundi, oui. Et puis il y en a d'autres, comme par exemple Isabelle et Yves, son mari, qui poursuivent leurs vacances, pas très loin de Fréjus. En fait, chacun essaie d'organiser son été en fonction de cette semaine de vacances, cette fameuse semaine de Mouti, comme il l'appelle.
La semaine de Mouti, vue par Jean-Gabriel Bourgeois. On se retrouve dans un petit instant, mon cher Jean-Gabriel. On va aller à Saint-Tropez pour découvrir la vraie tarte tropézienne. À tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, vous êtes où cet été ?
Bon week-end sur Europe 1 jusqu'à 14h. On vous emmène dans le sud de la France avec Pierre de Villeneau et Jean-Gabriel Bourgeois. Vous êtes où ? Sur la Côte d'Azur.
Deuxième étape de ces pérégrinations avec vous, Jean-Gabriel Bourgeois. Vous êtes toujours avec nous, vous êtes toujours sur la Côte d'Azur, au bruit des cigales et avec vos lunettes de soleil sur le nez. Alors, on va parler gastronomie puisque vous avez dégusté une tarte tropézienne.
Et oui, à Saint-Tropez, avec Brigitte Bardot, c'est l'autre icône de la station balnéaire. Et je vous ai parlé de la tarte tropézienne qui a eu son quart d'heure de gloire internationale il y a tout pile un an, grâce à Donald Trump et Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Mmh. Alors, on est en juin 2018 à Singapour, donc c'est l'année dernière. Les deux dirigeants se rencontrent pour la première fois. Un sommet historique et un dessert français est servi à leur table, cette fameuse tarte tropézienne. Et bien, c'était un coup de pub inattendu pour le patron de l'entreprise, Albert Dufresne.
Ça nous est arrivé dans la nuit, des mails de tous les côtés, voilà, en se demandant comment on avait fait. À vrai dire, ça a été une surprise aussi pour nous. Et voilà, mais on a profité de cette pub gratuitement. Mais j'ai pas pu les remercier encore, je les ai pas rencontrés.
Et voilà comment on fait connaître la tarte tropézienne dans le monde entier. Jean-Gabriel, c'est un coup de pub, mais en France, on la connaît bien, hein.
Bah oui, c'est quand même déjà une star, surtout depuis ses débuts. Tout lui réussit à la tarte tropézienne. L'actrice Brigitte Bardot, donc l'autre icône de Saint-Tropez, se penche sur son berceau. C'est elle qui souffle le nom du gâteau à Alexandre Mika, le propriétaire de la boulangerie, devant laquelle Bardot tourne le film « Et Dieu créa la femme » en 1955. 30 ans plus tard, Albert Dufresne reprend les boutiques.
C'est la marraine officielle de notre entreprise et de notre gâteau. C'est elle qui vient régulièrement, parce qu'il y avait l'équipe qui faisait ils tournaient là devant la boutique. Donc après, elle leur a présenté Mika, elle leur a amené une tarte tropézienne. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Au départ, eux, ils disaient c'est la tarte de Brigitte. Et c'est elle qui lui a conseillé de l'appeler la tarte de Saint-Tropez.
La tarte tropézienne. Alors, Jean-Gabriel, vous avez quand même un scoop pour Europe 1, mais on est habitué au scoop parce qu'on donne quand même beaucoup d'infos sur Europe 1. Vous avez la recette de la tarte tropézienne, la vraie ?
Alors en fait, j'ai quand même essayé de la voir, mais c'était un peu compliqué parce que vous allez comprendre, c'est tout un mystère autour de cette recette. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un dessert tout simple, une recette de grand-mère polonaise, le pays d'origine d'Alexandre Mika, donc de la brioche moelleuse tranchée en deux et de la crème à l'intérieur, une crème pâtissière onctueuse et généreuse. Et puis pour essayer d'en savoir plus, on est allé au laboratoire de Cogolin, c'est juste à côté de Saint-Tropez. J'ai mis une blouse blanche et même une charlotte pour descendre dans le laboratoire, voilà, question d'hygiène, là où travaillent 25 pâtissiers toute la journée, du lundi au dimanche. C'est l'été, donc 2000 tartes sont produites chaque jour. Bastien Solaire est le responsable de la production.
Là, on est là où tout se passe. Donc, on est dans la salle de crème. Ici, nous avons la cuisson du sucre. On est resté traditionnel, donc la cuisson dans les chaudrons en cuivre. On est sur 1h30 de cuisson. Donc, on a le pasteurisateur ici qui cuit notre première crème. Donc, cuisson, refroidissement. Et ensuite, une fois que tout est prêt et pesé, on fait le mélange avec la deuxième.
Il y a deux crèmes.
Oui, il y a la pâtissière et le secret, quoi.
Ah, et le secret, bah, c'est le secret, ouais. Hein, Jean-Gabriel.
Ah, voilà.
Hein.
Le secret reste toujours très
c'est
bien gardé.
C'est le secret, bah, voilà. Vous avez pu la goûter quand même, cette tarte.
Oui, heureusement. Investigation quand même, Pierre, n'oublie pas.
Quel métier terrible.
Je peux vous dire que j'étais pas le seul devant la boutique Place des Lys à Saint-Tropez au moment du marché pour apprécier la générosité de cette crème et le moelleux de la brioche.
On peut pas venir à Saint-Tropez sans manger la tarte. Ça fait partie du folklore. Elle est très bonne, la crème est excellente.
Ah oui, exceptionnelle, j'adore. Surtout la crème, elle n'est pas granuleuse, elle est vraiment bien.
On a des petits-enfants qui arrivent, alors ça va être la surprise. Ils arrivent ce soir et ils vont trouver ça. On a découvert aujourd'hui qu'ils en font à plusieurs parfums maintenant. Il y a toujours les authentiques, mais il y en a maintenant à la framboise, au chocolat. Alors nous, on aime bien l'authentique.
Cette crème et ce goût d'authentique, ça fait toujours recette en France et bientôt donc à l'étranger, puisque la tarte tropézienne va tenter une carrière internationale, direction le Japon et les États-Unis à partir du mois de septembre.
Et ben c'est formidable, maintenant que Donald Trump y a goûté, évidemment ça va être beaucoup plus simple. Sacha Dufresne est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne de Saint-Tropez. C'est là, évidemment, que tout se passe. Vous êtes le fils d'Albert, qu'on a entendu dans le sujet de Jean-Gabriel Bourgeois. Ce secret, on n'en saura pas plus, Sacha.
Hein,
on saura
pas plus. Malheureusement, on m'a obligé à tenir ma langue. Voilà, donc, je ne pourrais pas vous dire grand-chose. Mis à part qu'on utilise toujours d'excellentes matières premières, qui après, il y a un vrai savoir-faire qu'il faut respecter, sinon vous pouvez pas tomber juste.
Voilà. Alors, les origines polonaises, comment elles se retrouvent dans cette tarte qui, tout d'un coup, se retrouve sous les palmiers et sous le soleil?
Bah, si vous voulez, les origines polonaises viennent exclusivement de son créateur. Hein. Je pense que Albert vous a expliqué un petit peu l'histoire et comment tout a commencé pour Alexandre Mika. Mais sinon, ce qu'on retient surtout au niveau du produit, c'est que Alexandre Mika était une personne très généreuse et on le retrouve entièrement dans la tarte tropézienne.
Oui, alors justement, des tartes tropéziennes, il y en a plein partout, chacun fait sa recette. La recette de Saint-Tropez, c'est qu'elle est justement beaucoup plus généreuse. Et quand vous voyez les autres tropéziennes, vous vous dites c'est forcément moins bon?
C'est différent, c'est entièrement différent. Nous, on a la recette du créateur Alexandre Mika. Voilà, c'est lui qui a créé le produit. Après, écoutez, c'est le jeu. On a
c'est
un beau produit, un bon produit. On se fait.
Mais ça fait de la pub d'être copié.
On est souvent imité, jamais égalé. Eh oui. Tout à fait. Maintenant, c'est à nous aussi de montrer à nos clients et à toutes les personnes que nous souhaitons toucher, que derrière ça, il y a un vrai produit et une vraie histoire.
Ce sommet, on a bien compris, ce sommet justement avec Donald Trump, ça vous a fait pousser les ailes, c'est extraordinaire ce qui s'est passé.
Absolument, absolument, c'est un joli coup de pub.
Et là, vous avez déjà des retombées.
Mais nous, on nous a,
aux États-Unis.
On nous a appelé, étant donné qu'il y avait un décalage horaire assez important, toute la nuit, on recevait des SMS, des notifications, des emails pour nous féliciter. Mmh. Mais
et également pour vous,
on en a bénéficié. Absolument.
Pour vous féliciter, pour vous solliciter aussi, peut-être dans la table de grands restaurants américains.
Également, également. Et effectivement, ce coup de pub nous facilite également les accès pour pouvoir rentrer, en tout cas, à l'export.
Jean-Gabriel qui est toujours avec nous. Jean-Gabriel, vous qui avez maintenant Sacha en ligne également, cette tarte tropézienne, vous l'avez trouvée comment? Vous pouvez lui dire.
Je l'ai trouvé effectivement très généreux. C'est vrai que la crème, ça débordait. J'ai passé un agréable moment à déguster.
On passe un agréable moment. C'est merci pour
Exactement.
Ce moment, en fait. Hein, c'est ça.
C'est tout à fait ça. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est le nombre de calories de la part. Je ne sais
ça,
pas
on
si,
de pas
si
le
vous
dire.
Avez cette information, monsieur Dufresne.
Non, on ne communique pas sur les calories, bien évidemment. Mais ce que je peux vous dire, et étant donné que vous avez goûté le produit, déjà, c'est pas tant calorique que ça en a l'air, ça je vous rassure. Et surtout, étant donné que vous l'avez goûté, le produit, vous pouvez également certifier à ceux qui nous écoutent que c'est très léger en bouche.
Ouais, mais vous savez, aux États-Unis, vous serez obligé de communiquer sur les calories. C'est obligatoire, c'est la loi, c'est comme ça.
Absolument, absolument.
Eh ben, on va savoir
mais
alors. Si vous restez fidèle à la recette française.
Ah ben, on n'aura pas le choix.
Ah ben, il y aura peut-être une version US, non? Il n'y aura pas une version un petit peu allégée?
Non. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. On veut respecter le produit initial. Alors après, effectivement, on fait différentes saveurs maintenant, notamment avec les Baby Trop que vous avez pu voir, qui est le format miniature de la tarte tropézienne. Et là, effectivement, on teste d'autres saveurs. Mais sur la recette originale, pour l'instant, il n'y a pas de version
c'est
différente.
C'est un patrimoine. Merci beaucoup Sacha Dufresne d'avoir été en ligne avec nous. Et merci à Jean-Gabriel. On va se retrouver dans quelques petits instants, mon cher Jean-Gabriel, et vous nous emmenez sur les îles qui sont au large de Cannes.
Tous les samedis 13h-14h, vous êtes où cet été ?
Le célèbre homme au masque de fer y aurait séjourné tout de suite. Pierre de Villeneuve vous fait découvrir les îles de l'Airain sur Europe 1.
Voilà la troisième étape de cette semaine sur la Côte d'Azur dont vous êtes tous cet été. Et avec moi, Jean-Gabriel Bourgeois, vous nous emmenez en balade sur les îles qui se trouvent au large de Cannes, Jean-Gabriel.
Ah oui, oui. En fait, on est au large de Cannes, mais on est quand même sur le territoire de la commune de Cannes. On n'est pas sur la croisette, on prend le bateau, 15 minutes en mer, une balade pleine de mystères. D'abord, direction l'île Sainte-Marguerite, c'est un peu le jardin des Cannois, une place stratégique avant la Révolution française, un fort militaire et une ancienne prison construite à flanc de falaise, impossible de s'évader. Cette prison, elle a été spécialement créée sous Louis XIV pour un seul homme. Ce détenu célèbre a inspiré Alexandre Dumas, un film avec Leonardo DiCaprio, c'est bien sûr le masque de fer. Ce prisonnier avec ce masque d'acier a l'identité tenue secrète. Même les gardes de la prison ne savent pas qui il est. L'énigme commence dans sa cellule. Écoutez Christophe Roustan de la Tour, c'est le directeur adjoint des musées de Cannes.
On conçoit la prison autour des précautions qui entourent ce personnage mystérieux. Prison spacieuse, pourvue d'une cheminée, d'une très grande fenêtre, de latrines, etc. Donc ce confort et en même temps des mesures de sécurité extrêmes. Triple grille aux fenêtres. Trois portes avant d'arriver dans la cellule elle-même. Le bâtiment est protégé par une compagnie de mousquetaires. Énormément de chercheurs s'intéressent à ce personnage et on trouve des choses. On trouve des indices, encore aujourd'hui. Après plus de 300 ans, le mystère demeure.
Voilà, et donc il y a même une expo dans le fort jusqu'au 27 octobre. Comment est-ce qu'on s'y rend sur les îles, Jean-Gabriel ?
Eh ben, y a des bateaux qui font la traversée depuis le port de Cannes. Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un petit peu de chance parce que j'ai pris le bateau solaire entre Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, qui est l'autre île dont on va parler. Un bateau solaire que j'ai pu même moi-même conduire parce que ça se passe sans permis. C'est très écolo, ça va pas très vite, évidemment. On va à peu près à 6 nœuds, donc 11 km/h. Un bateau de 5,50 m sur 2 mètres à peu près. Au début, évidemment, on tourne le volant un peu dans tous les sens, mais on s'y fait assez vite pour quand même garder l'équilibre. Et donc, ça a des avantage. Écoutez Nicolas Laurent, le patron de ce Solar Boat.
De plus en plus de gens viennent nous voir pour avoir un bateau qui ne pollue pas. Ils viennent beaucoup donc en famille et pour sensibiliser notamment également les enfants à ce nouveau type d'énergie. Il n'y a pas d'essence à mettre le soir en rentrant au port. Ensuite, on a l'avantage de ne pas avoir de bruit. Donc c'est un bateau très silencieux, on n'entend que le bruit de l'eau. Donc c'est très relaxant. Et on n'a pas non plus du coup d'odeur d'essence, ce qui rend souvent les gens malades. C'est vraiment idéal pour les îles justement. On n'abîme pas la faune, la flore, on ne pollue pas. Et justement, la proximité de la côte fait que les gens, en moins d'une demi-heure, peuvent aller au lagon entre les deux îles. Donc c'est vraiment idéal.
Alors, il faut dire que ça a un coût, hein.
Oui.
Un bateau solaire, un bateau électrique comme ça, en pleine saison, comme ça, les juillet et août, ça coûte 290 € pour la journée. Mais bon, ça reste quand même accessible. Si on prend que le matin, par exemple, un petit billet de 160 € par exemple, pour vous faire plaisir.
Et bah tiens.
C'est quand même moins cher en basse
saison. Oui. Bon, vaut mieux faire ça à la nage. Pour aller à Saint-Honorat, c'est plus compliqué. Alors, à Saint-Honorat, on arrive, et puis vous nous dites qu'il y a une ambiance très, très différente de Sainte-Marguerite.
Ah, complètement, oui. C'est vraiment une autre dimension, bien plus spirituelle cette fois. On passe de cette grande île, Sainte-Marguerite, très fréquentée, forêt préservée, très présente, à Saint-Honorat, toute tranquille, sereine, pleine de recueillement, vraiment. L'odeur des pins, des eucalyptus, les cigales, on ne croise aucune voiture. Il n'y a pas de voiture sur les chemins de terre de cette île sacrée où vivent à l'année 20 moines cisterciens. Et puis au débarcadère, c'est Michel, une bénévole de l'Office du tourisme, qui m'accueille.
Bienvenue sur l'île Saint-Honorat. C'est un haut lieu chrétien. Depuis que le futur Saint-Honorat a débarqué sur cette île avec ses compagnons, au début des années 400, au 5e siècle. Ils ont d'abord été effrayés par le côté sauvage de l'île, et au bout de quelques années, ils en avaient fait un paradis, tant matériel que spirituel.
Et donc la balade commence, on se promène sous les allées...
On est dans ce que l'on appelle l'allée des Oliviers. Puisque vous allez le voir, elle est bordée d'oliviers séculaires du XVIe siècle et qui donne une excellente huile d'olive. Et de chaque côté de cette allée, vous allez voir des vignes.
Alors les vignes, justement, c'est l'activité agricole principale des moines sur l'île Saint-Honorat. Il y a 8 hectares et demi qui sont consacrés à ce vignoble. Un vin rouge aux notes de griotte et de fleurs de violette. J'ai eu la chance de le déguster.
Bah, tu m'étonnes.
Et ses frères Marie.
Faut pas se priver, hein, Jean-Gabriel.
Ah bah, investigation toujours.
Investigation hein, avec modération, attention.
Évidemment. Et ses frères Marie qui a été chargé de relancer la production. J'ai pu le rencontrer dans la cave de l'abbaye. Dehors, il fait 35 degrés et 18 seulement à l'intérieur.
Au début des années 90, la communauté m'a demandé de relancer le vignoble. Et pour ça, il a fallu que je me forme. Je n'y connaissais absolument rien. Faire appel à des conseillers, à des coachs, à des œnologues. En général, les vins blancs, on les laisse à peu près entre 6 et 8 mois en fût. Et les vins rouges, on les élève sur minimum 12 mois. Et certains sur 24 mois. Actuellement, on est sur une moyenne à peu près de 30 000 bouteilles par an, toutes cuvées confondues.
Voilà, et ce sont ici, sur Saint-Honorat, 16 siècles de vie monastique et un patrimoine religieux très riche. Il y a 7 chapelles tout autour de l'île, idéal pour une retraite spirituelle avec la seule compagnie des cigales. 2500 personnes viennent d'ailleurs se ressourcer chaque année à quelques centaines de mètres, à peu près 1 km de l'agitation de la Croisette.
Jean-Gabriel Bourgeois, vous restez avec nous. On va reparler encore de ces îles, notamment de Sainte-Marguerite et du mystère du masque de fer avec Nicolas Carreau. C'est dans un petit instant. Nicolas Carreau, l'homme des livres sur Europe 1, bien sûr, à tout de suite.
Bel été à tous, vous êtes où avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1 et ce samedi, direction la Côte d'Azur.
Retour sur nos escapades estivales avec Vous êtes où cet été et Jean-Gabriel Bourgeois qui nous accompagne puisqu'il vient de passer la semaine sur la Côte d'Azur et notamment au large de Cannes sur les îles de l'Hérens et aussi l'île Sainte-Marguerite donc où il y a cette légende, ce mystère du masque de fer avec nous pour en parler. Nicolas Carreau, bonjour.
Bonjour Pierre, Jean-Gabriel.
Bonjour Nicolas.
Et oui, Jean-Gabriel qui est encore avec nous et justement vous Nicolas, vous avez écrit les légendes du masque de fer. Ça a été une fascination pour vous ?
Ah oui, moi j'ai découvert le masque de fer par la littérature, par Alexandre Dumas, et j'ai appris ensuite que ce personnage de fiction avait réellement existé. Donc je me suis passionné depuis l'âge de 10-11 ans pour cette affaire, et puis j'ai passé 2 ans ensuite non-stop à étudier les documents pour essayer d'en savoir plus.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça parle de quoi ?
Alors le masque de fer, donc, c'est un prisonnier au XVIIe siècle, sous Louis XIV, prisonnier un peu particulier parce qu'il portait un masque. Personne ne connaissait son identité. Sur les documents officiels, d'ailleurs, on dit le prisonnier dont le nom ne se dit pas. On sait qu'il est mort à la Bastille en 1703, ça on a les documents qui le prouvent, et on sait aussi qu'il a fait 3 autres prisons avant d'arriver à la Bastille. Avant la Bastille, il était sur l'île Sainte-Marguerite, donc juste avant, il était dans la prison d'exil dans les Alpes, et juste avant encore, il a commencé sa carrière de prisonnier à la prison de Pignerol dans les Alpes italiennes. Il y a eu 52 théories sur cet homme masqué. Qui était-il ? Évidemment, on a pensé que c'était un homme d'importance, sinon pourquoi le masquer ? On a pensé même au jumeau du roi, la seule personne, le seul physique, le seul visage qui pourrait être reconnu à l'époque, c'était le visage du roi. Alors c'est pour ça qu'on lui met un masque. Pourquoi on ne le tue pas ? Parce que c'est du sang royal, etc. Un autre homme d'importance qui a compté, c'est Nicolas Fouquet, qui était le surintendant des finances et que Louis XIV n'aimait pas. Il était un peu jaloux de sa richesse.
Qu'il aurait banni, alors.
Qu'il aurait banni. On sait que d'ailleurs, il a été emprisonné à Pignerol, ce Nicolas Fouquet, donc ça correspond. On a même pensé à Molière, qui est mort à peu près au même moment que l'arrivée du masque de fer à la prison de Pignerol.
Là, il y a moins de raisons.
C'est un peu farfelu comme théorie, mais il y a des historiens qui se sont vraiment penchés dessus. Il y a eu 3000 pages écrites sur cette thèse.
Et il y a un nom, qui se détache, c'est celui d'Eustache d'Angers. On peut y croire à ça ?
En fait, c'est Agatha Christie, cette affaire. C'est-à-dire qu'on sait que donc, le prisonnier meurt à la Bastille, mais qu'il est arrivé à Pignerol en 1669. Et sauf qu'on a la liste de tous les prisonniers de Pignerol en 1669. Donc, il suffit de prendre cette dizaine de noms de suspects, et puis essayer de voir lequel correspond. Et parmi ces prisonniers, il y en a un qui s'appelle Eustache d'Angers. On a la dépêche écrite par le ministre de la guerre au geôlier de Pignerol, qui explique donc au geôlier, si il vous parle d'autre chose que de ses nécessités, passez-lui votre épée à travers le ventre. C'est-à-dire qu'on sait que ce prisonnier était tenu au secret, qu'il ne pouvait parler à aucun autre prisonnier. Pourquoi lui ? On ne sait pas. En tout cas, c'est une des pistes possibles. Cet Eustache d'Angers ensuite est parti à Exil, puis sur l'île Sainte-Marguerite, puis à la Bastille. Ce serait sans doute lui le masque de fer. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas un prête-nom. Ouais. Ça peut très bien être le jumeau du roi qu'on appelle Eustache d'Angers dans les correspondances.
En tout cas, ça a donné lieu à énormément de fiction, de romans, de films, de business, d'intrigues. Jean-Gabriel, sur cette île de Sainte-Marguerite, est-ce que tout cet univers que vient de décrire Nicolas Caro, est-ce que tout cet univers est bien présent ?
Si, dans, alors en fait, c'est vrai qu'il y a cette cellule très spacieuse, avec une cheminée, avec des latrines, avec ces triples barreaux aux fenêtres pour bien montrer qu'il n'avait pas de moyen de communication avec l'extérieur. Une fenêtre quand même avec vue sur la mer, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Et puis, il y a cette exposition qui retrace aussi le parcours de tous ces prétendants à l'identité possible pour le masque de fer.
Expo à voir jusqu'au 27 octobre, Nicolas. Vous avez été à Sainte-Marguerite ?
Oui, et je trouve que la cellule est très très bien entretenue. Quand on connaît un peu l'histoire du masque de fer, vraiment, on a l'impression d'être dans l'univers qu'il a connu. C'est vraiment très très bien fait. Et d'ailleurs, il y a des assiettes en étain à l'île Sainte-Marguerite, gravées. Et il y a une histoire célèbre du masque de fer, une anecdote. Il aurait gravé son nom sur une assiette en étain. Il l'aurait jeté à travers ses barreaux pour que quelqu'un découvre son identité et prévienne des autorités. Et c'est un marin qui tombe dessus. Il le ramène au gouverneur de l'île Sainte-Marguerite.
Ah, il arrive à la récupérer.
Qu'est-ce que vous avez lu ? Et le marin lui dit « Moi, je sais pas lire, monsieur ». Et donc, le gouverneur le laisse partir. Sinon, il serait sans doute pas reparti de la prison.
C'est terrible, c'est terrible. Et puis, c'est moins pratique qu'un SMS. Nicolas Caro, auteur des légendes du masque de fer, chez quel éditeur ?
La librairie Vuibert.
La librairie Vuibert. Merci, mon cher Nicolas. Jean-Gabriel, vous restez avec nous, puisque une autre étape de votre tour de la Côte d'Azur nous attend. À tout de suite.
Europe 1. 13h, 14h. Vous êtes où cet été ?
Belle journée à tous sur Europe 1 avec votre balade estivale à l'heure du déjeuner. Vous êtes où cet été avec Pierre de Villeneuve ?
Retour pour ceux qui nous prennent en chemin dans Vous êtes où cet été. C'est la compile, le best-of de cette semaine de Jean-Gabriel Bourgeois qui est resté sur la Côte d'Azur pour justement voir explorer plusieurs lieux de cette côte qu'on connaît peut-être pas forcément aussi bien. Jean-Gabriel, toujours avec nous, vous allez bien ?
Oui, toujours, toujours bien.
Et vous nous emmenez au mât des Escaravatiers. C'est un festival de musique, on va dire un peu vert, un peu écolo, un peu coupé du monde. Et d'ailleurs, la particularité, c'est que c'est le plus petit des grands festivals.
Oui, on peut le dire parce qu'on est à Puget-sur-Argent, devant le mât de la famille, sous les oliviers, il y a les cigales, la piscine. On est vraiment dans le sud. C'est un endroit reculé, entouré de vignes, idéal donc pour un festival de musique. Tout a commencé il y a 16 ans et c'est Sébastien Costamagna, le patron du festival, qui décide d'ouvrir sa maison au public. On est en 2003.
Oh bah c'était artisanal. Une scène en parpaing, des chaises de jardin récupérées chez tous les voisins. Non, c'était vraiment... c'était pas professionnel en tout cas. Et puis on connaissait pas ce métier.
Alors on connaissait pas le métier forcément, il travaille à ce moment-là dans le marketing du vin, il a 22 ans, donc rien à voir avec le monde du spectacle. Mm-hmm. D'ailleurs il y a toutes les vignes effectivement qui entourent
encore
le domaine.
Encore aujourd'hui,
Encore aujourd'hui, tout à fait. Et tout invite à la détente. Là j'ai fait l'interview avec le patron du festival à la sortie de la piscine, donc il était en short de bain.
Ah oui.
Bonjour. Il m'a expliqué qu'après 2-3 années un peu de balbutiement dans l'organisation, dans la programmation, il y va au culot, il invite Jacques Higelin, et puis c'est vraiment là que ça démarre.
Jacques Higelin a dit la première fois qu'il est venu, Omar reçoit le public comme des amis et les artistes comme de la famille. C'est ça qui se passe chaque soir de concert.
Je me retourne et on est vraiment à côté de la piscine, c'est vraiment ça qui fait le charme d'ici.
Ah mais la piscine n'est pas accessible au public. Non, elle fait office de décor, non, on est vraiment planté dans les jardins d'une maison, voilà. Et c'est surtout, moi je pense, ce qui se plaît au public, c'est la proximité en fait de la scène et on a un peu les artistes pour soi, quoi.
Voilà, c'est vrai que c'est un petit festival.
Pas le droit de goûter à la piscine quand même.
Et non, malheureusement.
Faut pas tout
mélanger.
Pourtant,
il faisait très très chaud. Il faisait très très chaud jour-là. Dans ce petit festival, donc comme à la maison, vraiment un concert privé, ça fait vraiment ça, cette impression. Les artistes sont reçus aussi comme à la maison, ils dorment sur place et certains reviennent, comme par exemple le groupe Lilywood and the Prick.
Ah oui.
Ils ont même écrit une chanson sur cet endroit et ça s'appelle évidemment Le Mât. On écoute un petit extrait.
Alors, Jean-Gabriel, c'est un petit festival, mais avec une grosse programmation.
Et oui, cette année, il y a une quinzaine de concerts tout l'été. Gaëtan Roussel est venu au mois de juin. Il y avait Jean-Louis Aubert auquel j'ai assisté à son concert, c'était dimanche dernier. Et puis Clara Luciani, la semaine prochaine Grand Corps Malade ou Cœur de Pirate encore. Et puis ça continue de grandir avec l'ouverture d'une nouvelle salle pour poursuivre tous ces spectacles l'hiver. Il y aura même aussi des séances de cinéma. Ça s'appelle le Madhiver et c'est une grande salle qui vient juste d'ouvrir cette année.
Et Jean-Gabriel, on imagine qu'il y a beaucoup d'ambiance.
Effectivement, beaucoup d'ambiance. On y est vraiment, les food trucks, les sandwichs, la bière. Il y a quand même ce côté intimiste, propice à la convivialité. C'est par exemple ce qu'a découvert Fred qui vient de Marseille pour ce concert.
C'est vraiment magique, féerique, beau comme la Provence, les cigales, c'est magnifique. Je viens de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas, ils sont super sympathiques. Et ça, pour moi, cette convivialité qu'il y a, c'est vraiment superbe.
Alors justement, les gens sympas, c'est mesdames.
Je viens très régulièrement, chaque année. On a eu Biolay, il y a Grand Corps Malade, là, Jean-Louis Aubert. Le seul dommage, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de place. Voilà, ce serait un peu plus grand. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi le côté sympa, c'est qu'on n'est pas 3 ou 4 000.
Voilà, donc ça c'était Eve qui habite donc le village juste à côté, c'est pour ça qu'elle vient assez régulièrement au mât des Escaravatiers dans ce festival aussi. Et ce qu'elle apprécie aussi, c'est ce côté éco-responsable. Vraiment, il y a toute une démarche qui est mise en place pour faire de cet endroit un endroit écolo, un endroit éco-responsable.
Et pour nous parler justement de ces initiatives, nous sommes en ligne avec Tatiana Lambert, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes à la tête de cette équipe de bénévoles qui sont sur chaque concert. C'est quoi votre mission principalement ?
Alors, ma mission principalement, c'est de réfléchir en amont de tout le festival et de la programmation et pendant et après les événements, puisque c'est un festival qui dure un peu plus de 3 mois. Hein. C'est pas juste deux dates de concert, hein, comme vous l'avez bien souligné. Ouais. Ça dure tout l'été. Donc, du coup, effectivement, il faut qu'on arrive à avoir une démarche de bon sens.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est toute une ingénierie de process et de procédures et de local et de bon sens qui est mis en place.
Alors,
dans cet éco-festival.
Des exemples, parce qu'il faut, j'imagine, nourrir les gens, il faut qu'ils aient des facilités.
Exactement. Donc, du coup, en fait, pour nourrir les gens, nous avons des food trucks, comme l'a souligné Jean-Gabriel, qui sont présents. Donc, ces food trucks aussi sont engagés dans une démarche.
On mange local, j'imagine.
Voilà, exactement, local, bio, plutôt typique. Et après, aussi, selon les aspirations, vous pouvez manger sans gluten et sans viande.
Ouais.
Donc, du coup, avec des bons produits. Les contenants aussi sont aussi dans une démarche où on essaie d'avoir le moins possible de plastique, effectivement. Du coup, ça, c'est super. Et après, les artistes également, c'est ça la clé, la dynamique, mangent des produits soit du jardin ou des maraîchers du coin. On a une cuisinière qui cuisine à chaque fois pour le staff, pour les artistes, pour les techniciens, des bons petits plats.
Ouais.
Donc, il y a toute une équipe en cuisine qui sert à l'assiette.
Ouais.
Avec des entrées, plats, desserts et du vin du domaine des Escaravatiers également. Donc c'est ça aussi qui fait toute la dynamique et la magie. On n'est pas
et également, pardon de vous couper, mais aussi un effort sur le recyclage.
Exactement. Donc du coup en fait tout est recyclé, que ça soit au niveau en interne en cuisine. On va réutiliser aussi le compost et après aussi sur l'ensemble du site on a plusieurs spots de tri où du coup toute l'équipe éco-bénévole Green Team sensibilise le public.
Ouais.
Et
la Green Team, j'aime bien.
Exactement.
La Green Team, l'équipe verte du festival du Mât des Escaravatiers. Merci beaucoup Tatiana. Allez, un petit peu de musique, on écoute Clara Luciani, bien sûr, c'est La Grenade. La Grenade, le tube, peut-être pas de l'été, mais en tout cas on le fredonne vraiment encore cet été, c'est très estival. La Grenade de Clara Luciani. Jean-Gabriel, vous êtes toujours là ?
Je suis toujours là, oui.
Et alors, vous restez avec nous et dans un petit instant, on va faire cette dernière étape de votre trip sur la Côte d'Azur. J'espère que ce n'était pas un very bad trip.
Non,
pour l'instant,
pas.
On a l'impression que c'était plutôt pas mal. Et on va justement être sur les routes et plus précisément sur les autoroutes. À tout de suite.
Tous les samedis, 13h, 14h.
Vous êtes où cet été ?
Vous êtes sur la route, dans les bouchons, des départs en vacances. Allez, courage jusqu'à 14h. Pierre de Villeneuve vous emmène en balade sur Europe 1 ce samedi. C'est sur la Côte d'Azur.
Et nous sommes toujours en voyage sur la Côte d'Azur pendant vos vacances. Voyage ensoleillé au bord de la mer. Jean-Gabriel Bourgeois, vous êtes toujours avec nous.
Oui, tout à fait, Pierre.
C'est vous qui nous avez fait vivre toute cette semaine sur la Côte d'Azur. Mais alors, pour y arriver à la Côte d'Azur, c'est bien gentil, mais il faut prendre l'autoroute.
Et oui, et forcément, on a besoin de s'arrêter sur la route, parce que c'est quand même important de s'arrêter régulièrement, on ne le répète jamais assez. Et donc, on a fait le choix de s'arrêter sur une aire un peu emblématique. 10 à 12 000 voitures qui s'arrêtent chaque journée de grand départ sur cette aire de l'autoroute A7, l'autoroute du Soleil. C'est l'Anson de Provence. Mm-hmm. On vient juste de passer le péage. Et il y a cette grande passerelle qui enjambe l'autoroute.
Exactement.
Avec écrit dessus Porte de Provence. C'est vraiment une première étape avant les vacances, avant l'arrivée à la mer.
On entend les cigales d'ailleurs. Hein, ouais.
Voilà, dès qu'on ouvre la portière en descendant de la voiture sur cette aire, on entend les cigales. C'est vraiment le début des vacances. Patrick Le Calvez est le patron des restaurants de cette aire.
Il y a plusieurs générations qui sont passées sous ce pont ou qui s'y sont restaurées et donc s'en souviennent. On est proche de la mer, de l'arrivée des vacances. Pour eux, c'est l'étape qui reste en mémoire. Ce qui arrive souvent, c'est que c'est une aire bidirectionnelle. Les gens, en fait, ne se souviennent plus où ils ont mis leur voiture et donc ils nous demandent souvent d'appeler la gendarmerie. On les rassure, on cherche les voitures avec eux et là, ils se rendent compte de leur erreur. Donc c'est un classique pour nous.
Voilà, c'est un classique, c'est une belle frayeur à chaque fois. Alors on imagine qu'avant un week-end de grand départ comme ça, ça fourmille dans cette aire de repos.
Eh ben oui, c'est une sacrée organisation, c'est l'effervescence des tôt le matin. 110 personnes travaillent toute la journée. J'ai suivi par exemple Jocelyne Chambon, elle est responsable point de vente.
Eh bien là, on voit déjà qu'on a un gros réassort de boissons fraîches.
C'est des boissons fraîches, c'est des brumisateurs aussi.
Exactement, donc on a mis des brumisateurs, on les a déjà mis au frais en plus pour que ça rafraîchisse un peu plus.
Alors justement, les sandwichs, là, ils sont bien rangés dans le petit placard, voilà. On l'ouvre.
Dans le petit frigo.
Il y a combien de sandwichs par jour qui sont vendus comme ça ?
Alors sur une journée de départ, il y a environ 1200 sandwichs de vendus.
Alors là, on arrive dans la partie vraiment restaurant de l'aire. On voit déjà les poulets qui tournent dans la rôtisserie. Et puis,
nous mettons également en avant un produit régional. C'est la gardiane de taureau, de la gardiane de Manade, qui est fabriquée sur Marseille. Également de la saucisse de Marseille, les burgers, les steaks hachés, les grillades, les entrecôtes, les bavettes. Et bien entendu, vous voyez nos poulets qui sont en train de cuire dans notre rôtissoir.
C'est ça qui est formidable avec vous, Jean-Gabriel, c'est qu'on apprend des choses. Moi, je connaissais la saucisse de Morteau, la saucisse de Montbéliard, la saucisse de Francfort, mais la saucisse de Marseille, je ne connaissais pas.
Moi aussi, je l'ai découverte.
Sur cette aire, en tout cas, on ne vient pas forcément déjeuner dans un restaurant, on n'a pas forcément envie de prendre le temps pour s'arrêter, mais alors du coup, on pique-nique et on se repose. Hein.
Et oui, des activités sont même proposées, des activités sportives notamment, sport, pétanque.
La pétanque, évidemment. Sud, évidemment.
Du foot et même de l'origami, vous savez, le pliage de papier. Mm-hmm. Et puis, tout un tas d'activités aussi autour de la nature, de l'environnement. Explication avec Laurent Noé du service client de Vinci Autoroute.
On est là avec les cigales, avec toutes les équipes et Jean Ducru qui accueille tous les touristes d'Europe. On est là pour se détendre principalement, pour apprendre des choses aussi, pour faire du sport. Pour découvrir des abeilles, parce qu'on a à côté de nous une ruche cheminée et qui va nous permettre de sensibiliser tout le monde à la préservation de ces petites bêtes.
Alors on continue notre petite promenade. Il y a un coin lecture, un coin détente un peu là.
On estime que lire c'est voyager et que voyager c'est lire, comme disait Victor Hugo. Et donc on propose à nos clients de profiter d'un moment de détente autour d'un livre. Ils pourront même d'ailleurs partir avec un livre, parce que c'est ça aussi les vacances, c'est prendre du temps pour se reposer les méninges et pour s'évader.
Alors là, il y a juste à côté de cet espace détente, on est aussi aux portes de la Camargue et l'idée aussi de cet espace, c'est de faire découvrir cette région.
Tout à fait, oui. Donc, on est là à la fois pour éduquer les gens à la préservation de la nature, à l'éco-citoyenneté, à adopter des gestes simples sur la route, ne pas jeter les mégots de cigarettes, ralentir la couche d'ozone. Et puis également donc, pour inciter les gens à faire un petit arrêt chez nous pour découvrir les joyaux de notre territoire.
Donc c'est un peu ici ludique et touristique, hein. On voit qu'il y a des jeux.
Exactement, donc un jeu de loi.
Vous regardez ce jeu de loi d'un peu plus près.
Par exemple, si on tombe sur la case 2, voilà, c'est une question toute bête. En partageant sa voiture avec d'autres personnes, est-ce qu'on fait des économies et est-ce qu'on protège la planète ? Vrai ou faux ? Alors, à votre avis ?
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est le covoiturage.
C'est ça.
Tout à fait.
Ouf, j'ai bien répondu.
Pas sûr, hein, ouais. Si. Mauvaise réponse.
Non, ça c'était Caroline qui était donc en charge de cette animation. Donc voilà, il y a beaucoup de sensibilisation, de prévention, avec aussi la présence des patrouilleurs sur l'air. Vous savez, ce sont les hommes en jaune avec leurs camions de patrouille. Ça fait 23 ans que Sébastien fait ce métier pour justement éviter les accidents. Il ramasse tout un tas d'objets sur la route. Des objets sont d'ailleurs exposés pour que les vacanciers se rendent compte du danger.
Des vélos qui ont été mal fixés sur une voiture. Donc vous voyez là les dégâts que ça peut faire si vous roulez à 130 de nuit, vous le voyez pas et vous percutez ça. Ça peut faire des gros dégâts au véhicule. On a pu le ramasser avant qu'il y ait un accident.
Et alors vous avez dû en voir des vertes et des
De tout. Du plus rigolo au plus tragique, malheureusement. Quoi.
De rigolo comme quoi, par exemple?
Une fois, je suis tombé sur une autruche. Je taillais les végétaux sur une aire de repos. Et je vois un chien qui vient me voir en me disant « il y a une autruche sur l'autoroute ». Alors, avec le collègue, on s'est regardé, on dit « bah, c'est une blague qui nous fait ». Et puis, on est allé sur le tracé et on est tombé nez à nez sur une autruche.
Et donc, vous avez réussi à la récupérer?
Oui, ça va vite, ces bestioles-là. Elle était à 60 km/h. Et à un moment donné, elle a voulu sauter les glissières. Et elle a trébuché, elle est tombée. Et moi, j'ai un certain poids, donc je me suis assis dessus. Et j'ai mis un chiffon sur les yeux de l'autruche. Ça l'a calmé automatiquement parce que les volatiles, dès qu'on met un chiffon sur les yeux, ça les calme.
Dis donc, c'est 30 millions d'amis, votre truc, là.
c'est Sébastien, effectivement, il s'y connaît en volatile. Hein. Et surtout, il s'y connaît en dépannage.
Hein. Ouais.
Et plus sérieusement, évidemment, si vous êtes sur la route en ce moment, vérifiez que vous avez bien fixé votre coffre de toit, par exemple, et pensez à vous arrêter régulièrement. Pierre, vous connaissez la fameuse formule, toutes les deux heures.
La pause s'impose. Merci.
Exactement.
On connaît la leçon. Merci, Jean-Gabriel Bourgeois, de nous avoir accompagnés sur la Côte d'Azur. On vous retrouve, bien sûr, dès lundi matin pour une autre région qu'on tiendra secrète, Jean-Gabriel, puisque...
On ne dira rien.
On ne dira rien, mais on vous retrouve bien sûr lundi matin pour Vous êtes tous ce matin et on se retrouvera samedi prochain à 13h pour le résumé de votre semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Très très bonne journée sur Europe 1.
Merci Pierre, et donc à samedi prochain pour de nouvelles escapades. Votre samedi qui continue justement sur Europe 1, l'été avec Christophe Ondelat dans un instant. Ondelat raconte 11 mois d'enfer, maladie de Lyme, comment j'ai failli mourir. C'est l'histoire incroyable de ce jeune homme qui de l'âge de 12 ans et demi à 17 ans a subi un calvaire de services médicaux en services médicaux, voire services psychiatriques. Restez avec nous, ça arrive dans un instant sur Europe 1 et l'info aussi à venir.